Vous écoutez
RMC.
Il est 8h33 et vous êtes bien sur AMC et BFM TV. Bonjour Marie-Lise Léon.
Bonjour.
Vous êtes le nouveau visage de la CFDT, secrétaire générale de la CFDT. Vous succédez donc à Laurent Berger juste après cette bataille des retraites. On va voir d'ailleurs si pour vous elle est derrière vous. On va parler de la question du chômage, de la question de l'emploi, de la question du partage des richesses. Voilà aussi un des grands dossiers sur lesquels la CFDT a été en pointe et qui devrait être adopté à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Partage des richesses d'ailleurs plutôt qu'augmentation des salaires pour certaines entreprises. Mais je voudrais commencer par vous faire réagir aux propos d'Emmanuel Macron, qui était donc hier à Marseille, qui est encore à Marseille ce matin. Mais hier, il était interpellé par une mère de famille qui lui disait « Voilà, mon fils a 33 ans, il a touché le RSA, mais il ne le touche plus, il a 11 mois de loyer impayé, il cherche du boulot. » Et voilà la réponse d'Emmanuel Macron.
Il veut travailler dans votre fils. Il est prêt à travailler serveur. Mais alors, là, franchement. Quand j'étais plus jeune, j'ai traversé la rue. Non, mais c'est vrai, c'est encore plus gros aujourd'hui.
Aujourd'hui,
on descend ensemble, on fait le tour du port. Je serais surpris qu'il n'y ait pas un restaurant ou un café qui ne cherche pas. On va tout de suite. Moi, je vous promets, je fais le tour du vieux port ce soir avec vous. Je vous trouve. Je suis sûr qu'il y a 10 offres d'emploi.
On verra d'abord.
Juste une question.
Peut-être un peu compliqué pour ceux qui étaient en radio, je vous traduis en quelque sorte, puisqu'il y avait beaucoup de bruit, mais voilà ce qu'il a dit Emmanuel Macron. Écoutez madame, on fait ce soir le tour du Vieux-Port, je suis sûre que si on fait le tour ensemble du Vieux-Port, on trouve 10 offres d'emploi.
Moi je pense que c'est la petite phrase facile. C'est la petite phrase facile, un président de la République qui méconnaît la réalité du travail, des métiers, les difficultés à chercher un emploi, le travail formidable que font les conseillers qui font de l'accompagnement, accompagnement vers l'emploi, l'accompagnement social. Et je suis pas sûre que ce soit le rôle de l'Élysée de trouver du boulot pour tout le monde. Donc je pense que c'est dommage qu'il puisse y avoir, enfin qu'il y ait encore ce type de réflexion. Et je rappelle, il y a 5 millions de chômeurs aujourd'hui en France.
Il a l'air de dire que si on veut du boulot, on en trouve, quoi.
Oui, mais ça fait 5 ans qu'il le dit, et je pense que c'est pas si simple que ça. C'est pour ça que je dis que c'est une petite phrase facile. C'est pas si simple que ça. Quand on cherche du boulot, ça veut dire que voilà, il faut. C'est une remise en question chaque jour. C'est vouloir chercher dans ses compétences. Et puis je pense que c'est aussi c'est pas une phrase qui est là pour valoriser les métiers. Il explique qu'il suffit de faire le tour du port et d'aller dans les cafés.
Mais de fait, c'est le cas. C'est-à-dire que le journal La Provence, par exemple, hier soir a effectivement été sur le vieux port, effectivement frappé aux portes des restaurateurs et a trouvé, non pas 10, mais 13 offres d'emploi.
13 offres d'emploi, mais quel message le président de la République envoie aux personnes qui sont en emploi dans ces cafés-restaurants en disant, en gros, il suffit de taper à la porte et de venir travailler. Ça veut dire qu'il y a c'est nier les compétences, les difficultés, les conditions de travail, des horaires.
Ça
ne
veut pas forcément dire que ce jeune homme-là, le fils de cette dame, serait pris. Mais en tout cas, des offres d'emploi, il y en a et elle ne trouve pas.
Mais c'est pas. On ne sait pas. On peut pas raisonner uniquement entre une offre d'emploi, un chercheur, un demandeur d'emploi. C'est beaucoup plus complexe. Ça nécessite de tenir compte de beaucoup plus d'éléments. Et voilà, je trouve que c'est un peu facile et que c'est facile d'arriver avec quelqu'un, d'aller voir un employeur et de dire embauchez-le quand on est président de la République.
Qu'est-ce qu'il aurait dû dire ?
Je pense qu'il aurait dû expliquer ce qui est en projet, par exemple avec France Travail. Il y a un vrai enjeu autour de la question de l'accompagnement, d'aller chercher.
C'est le nouveau Pôle emploi, France Travail.
C'est le nouveau Pôle emploi. Alors peut-être que ça sera le nouveau nom de l'Élysée si tout le monde doit aller frapper à la porte du président pour trouver du boulot.
Pour un conseiller de Pôle emploi,
je pense que c'est surtout l'illustration qu'il méconnaît la réalité des personnes qui cherchent un emploi.
Est-ce que aujourd'hui, quand on arrive à ce qu'il appelle lui une forme de quasi plein emploi, on est à 7,1% de chômage au niveau national. D'ailleurs, je précise qu'à Marseille, il y a plus de chômage qu'ailleurs, 9,1%, donc 2 points de plus que la moyenne nationale. Quand on arrive à 7% de chômage, Emmanuel Macron lui estime qu'on est quasiment au plein emploi. En tout cas, qu'il vise le plein emploi et que le plein emploi est possible. Vous avez l'air d'en douter.
Non, je dis pas qu'il faut en douter. Je pense que c'est un objectif que partage la CFDT. On ne peut pas se satisfaire d'avoir ce nombre de demandeurs d'emploi. Mais au-delà des statistiques, 7% de chômeurs, ça veut dire 5 millions 88 chômeurs, toutes catégories confondues. C'est 5 millions de personnes qui sont en situation en difficulté, qui ont perdu pour de multiples raisons leur emploi et qui ont besoin d'un accompagnement. Et plus le chômage baisse, plus l'accompagnement doit être renforcé. C'est là-dessus qu'il faut marteler.
Si on reste sur cette question des emplois non pourvus, je recevais hier sur RMC un boucher qui est dans l'Ain et qui se bat pour que son apprenti, qui est un apprenti originaire du Mali, puisse avoir une carte de séjour. Aujourd'hui, ce jeune malien qui est arrivé à l'âge de 15 ans, qui travaille depuis 2 ans dans sa boucherie, risque l'expulsion. Il est sous le coup d'une OQTF alors qu'il s'apprêtait à passer son oral, enfin sa pratique du CAP. Il se bat pour le garder, la maire de son village se bat pour le garder, quasiment l'intégralité du village a signé la pétition. Donc il y a la question de l'emploi et de la régularisation des travailleurs immigrés. Et il y a aussi une autre question en creux, c'est que ce boucher, il me disait, mais au fond, si ce jeune malien part, je ne trouverai personne, parce que j'ai tenté d'embaucher des Français, j'aime pas du tout cette expression, enfin je sais pas comment le dire autrement, des Français réguliers en France, avec des papiers, qu'on dirait Français de souche. Bon, en tout cas, il dit, je n'en trouve pas parce qu'ils sont pas prêts à bosser.
Alors ça, je ne vais pas rentrer dans le débat des jeunes qui veulent pas bosser, qui savent pas se lever le matin, qui savent pas dire bonjour. Enfin,
ce que je trouve intéressant, c'est que ce boucher, il est d'un côté, il se bat, il se bat.
Mais moi, je pense qu'il faut.
Mais de l'autre côté, en même temps, quand je lui dis, mais vous avez trouvé, il dit non, je ne trouve pas, je ne trouve personne.
Ben, je pense qu'il y a un renfort d'accompagnement. On parle de l'accompagnement des jeunes, l'accompagnement des personnes qui cherchent un emploi, d'aller vers les entreprises. Et il y a aussi besoin pour les entreprises d'un accompagnement spécifique pour pouvoir savoir à quelle bonne porte frapper. Et ça, je pense qu'il faut qu'on puisse améliorer les choses des deux questions-là. Et puis, alors, je pense pas que la question, elle se pose dans les termes de les jeunes veulent pas bosser et donc.
Mais c'est pas une question des jeunes. Hein. C'est une question
Dans le cas de l'apprentissage, notamment dans la boucherie, on est plutôt sur des populations plus jeunes. La question de moi, je trouve ça totalement insensé que cet apprenti en boucherie ne puisse pas être régularisé, qu'il ne puisse pas avoir ses papiers. C'est totalement fou qu'il soit là depuis 2 ans, qu'il fasse un travail qu'il aime, qu'il soit avec
sur lequel
un patron,
il s'est particulièrement investi. D'ailleurs, il précisait qu'il avait appris le français.
Il fait le boulot et on est super content de son travail et tout le monde y retrouve son compte et qu'il ne puisse pas être régularisé, je trouve ça totalement insensé. Il faut qu'il puisse y avoir plus de régularisation des travailleurs.
Ça, j'ai bien entendu. Je vous repose quand même ma question parce que je trouve que vous ne pouvez pas vous dérober là-dessus. Parce que ce n'est pas une question uniquement de ce boucher dans l'Ain qui voulait stigmatiser particulièrement les jeunes. Il n'avait absolument pas cette volonté-là. Et d'ailleurs, le combat qu'il mène pour son apprenti montre bien que lui, il n'est pas dans une question de combat idéologique ou de devoir jeter l'opprobre sur les jeunes. Il dit juste, voilà, moi, j'ai eu du mal à trouver quelqu'un pour bosser.
C'est une réalité. C'est une réalité. Après, la question. Elle est aussi.
Est-ce que c'est une question de conditions de travail ou est-ce que c'est une question de motivation?
Alors moi, je ne crois pas à la motivation et je ne pense pas qu'il y ait un choix de certains jeunes à rester chez eux ou de chômeurs ou de demandeurs d'emploi ou de bénéficiaires du RSA à préférer rester chez eux plutôt que d'aller travailler. Ça, je n'y crois absolument pas. Absolument pas. Le travail est un moteur pour beaucoup, beaucoup de personnes. La question, c'est aussi, exactement comme vous dites, c'est quoi les conditions de travail qu'on me propose, les conditions d'emploi, les problématiques de logement. On ouvre la saison, la campagne des saisonniers avec le développement d'un accompagnement particulier CFDT, d'aller à la rencontre des saisonniers. Le sujet numéro un, c'est la question du logement.
Parce qu'on est dans des zones touristiques,
c'est tendu, il y a les problématiques de logement, de pouvoir aller de son boulot à son domicile ou là où on est hébergé le temps de la saison. Il y a une problématique régulière autour de la question des heures de travail. Est-ce que mes horaires correspondent à ce qui est prévu? Est-ce que je suis bien payée pour le nombre d'heures que je fais? Et ça nécessite qu'elles soient informées de leurs droits. Ça, c'est extrêmement important. Si on est sur les questions là tout de suite maintenant du logement, nous on travaille très concrètement avec les territoires, les collectivités locales. On essaye de mettre en relation en fait les employeurs avec des solutions, des personnes qui peuvent avoir des solutions d'hébergement, des places dans des mobil-homes, dans des campings. Voilà, il y a des solutions qui peuvent être trouvées. Nous, notre rôle CFDT, c'est de faire en sorte que les personnes se rencontrent et qu'il y ait des solutions concrètes qui puissent être trouvées.
Marie-Lise Louise Léon. Je rappelle donc que vous êtes la nouvelle secrétaire générale de la CFDT. Je voudrais qu'on parle du partage de la valeur, puisque à partir d'aujourd'hui, à l'Assemblée, sera donc défendu cet accord qui a été signé par la CFDT. C'est donc, pour le coup, les partenaires sociaux qui ont commencé, qui se sont emparés de cette question du partage de la richesse au sein de l'entreprise, qui ont signé un accord. Et cet accord, eh bien, le gouvernement propose de le retranscrire dans la loi. Ça part donc de vous, des partenaires sociaux. D'abord, il y a quoi dans cet accord ?
C'est un accord qu'on a signé, nous, CFDT, parce qu'il part du partage de la valeur, notamment pour les petites entreprises. Donc, toutes les entreprises de moins de 50 doivent pouvoir bénéficier à horizon mi-2024. Toutes les branches doivent négocier un accord des accords de participation. Donc, nous, notre cible dans cet accord, il y avait deux enjeux. La cible, c'était les salariés des très petites entreprises et des petites entreprises, puisqu'on sait qu'en général, dans les plus grandes entreprises, il y a de la négociation, il peut y avoir des accords, et donc ça bénéficie plutôt aux salariés des grandes entreprises. Donc là, nous, notre objectif, c'est de pouvoir concrétiser des accords sur la participation, une des modalités de partage des bénéfices. Et puis, l'autre enjeu, c'est que c'est un accord qui ne règle pas les questions de pouvoir d'achat et de partage de la valeur.
Donc, c'est bien, mais c'est pas suffisant.
C'est bien, mais on assume totalement. C'est-à-dire que c'est un accord qui règle une partie de la problématique du partage de la valeur, qui va aussi permettre de travailler sur la mixité des métiers, les évolutions de carrière. Donc, ça, c'est quelque chose de très, avec des éléments relativement complets. Et puis, il y a la question des salaires. Mais la question des salaires, pour la CFDT, elle ne se règle pas par la loi. Donc, c'est un accord qui doit être transposé, mais qui doit nécessairement être complété par notre travail syndical dans les branches professionnelles pour pouvoir avoir.
Ça veut dire que la question des salaires, elle se règle dans les entreprises, elle se règle dans les branches. C'est pas la même idée que la CGT. La CGT a refusé de signer cet accord précisément à cause de ça, parce qu'elle estime que on ne fait qu'un bout du chemin.
Oui, mais c'est déjà pas mal de faire la moitié du chemin. Donc nous, on voit le verre à moitié vide, à moitié plein, quand la CGT voit le verre à moitié vide.
Et donc, vous espérez que cet accord il puisse rentrer en application quand ?
Alors ça va être, il y a la loi qui doit être adoptée et l'accord il est très clair, mi-2024 l'ensemble des branches professionnelles devront avoir négocié un accord sur la participation et fin d'année les branches professionnelles devront avoir travaillé sur leur grille de classification. Ça paraît un peu barbare les grilles de classification dans une branche professionnelle, mais en fait c'est la grille qui définit les écarts de salaire. Donc c'est extrêmement important.
Les écarts de salaire entre les plus bas salaires et les plus hauts
et les plus bas. Et donc si on réussit à mieux les répartir, quand il y a une augmentation, tout le monde en bénéficie et c'est une vraie reconnaissance du travail et des compétences.
Alors aujourd'hui, le paradoxe, c'est que la CFDT, effectivement, est plutôt aux côtés du gouvernement là-dessus. Enfin, en tout cas, le gouvernement a accepté de transcrire dans la loi cet accord que vous avez signé. C'est l'opposition, pour le coup, qui n'est pas du tout de votre côté, pour les mêmes raisons que la CGT. C'est-à-dire que vous avez dit, c'est mieux que rien, sauf qu'eux, ils disent, ça va empêcher l'augmentation de salaire. Ils disent notamment qu'en rendant obligatoire les primes, le versement d'intéressement et de participation, eh ben ça donnera un prétexte aux entreprises pour ne pas augmenter les salaires.
Pas du tout d'accord. Enfin, ça, c'est avoir peu de considération pour l'action syndicale en entreprise. La question des négos salariés, il y en a tous les jours. Il y en a qui aboutissent, il y en a qui nécessitent d'avoir des grèves, qui nécessitent d'avoir des mobilisations plus ou moins intenses. Mais ça, c'est le boulot des organisations syndicales. Donc nous, on assume cette responsabilité. Et s'il y a besoin d'augmentation salariale, charge aux syndicats de s'organiser, de mobiliser les salariés. Ça, moi, j'assume totalement le fait que ce soit notre travail.
Je voudrais qu'on parle des retraites. Au fond, elles sont ce combat des retraites. Il y avait deux visages qui étaient celui de Laurent Berger et celui de Philippe Martinez. Tous les deux ont quitté la direction de la CFDT et de la CGT. C'est désormais vous, Marie-Lise Léon, qui êtes à la tête de la CFDT. C'est Sophie Binet qui a pris le relais pour la CGT. Est-ce qu'au fond, ces incarnations, c'est aussi la fin d'une bataille ? Ils ont été jusqu'au bout de cette bataille des retraites. Elle est derrière vous.
Alors, le calendrier des congrès ou du Bureau national pour la CFDT font que ça correspond aussi effectivement à la une des étapes de cette réforme des retraites. Je pense que c'est sain que dans les organisations il y ait du renouvellement et deux que les responsables tiennent leurs engagements. C'était le cas de Laurent Berger qui avait annoncé qu'il ne ferait pas un mandat complet et qui respecte l'éthique des responsables CFDT qui est de dire au bout de 10 ans, on commence à réfléchir à la suite. Donc,
et cette suite, c'est vous qui la prenez, Marine Zéon. On va y revenir dans un instant, mais je reprends ma question sur cette bataille des retraites. Vous avez dit une des étapes, si j'ai bien entendu ce que vous avez dit. Ouais. Est-ce que je dois entendre que elle n'est pas finie, cette bataille des retraites?
La bataille des retraites, elle est pas finie parce que on n'a pas l'habitude de mentir aux travailleurs. Donc le report de l'âge légal de 62 à 64 va entrer en vigueur. Il est prévu pour le 1er septembre. Et quand je dis la bataille continue, c'est que notre boulot, c'est d'être au contact et à la disposition des travailleurs qui ont des questions. Et les questions, elles sont nombreuses. Sur les modalités pratiques d'entrée en vigueur.
Mais est-ce que vous avez encore les moyens de vous y opposer? Est-ce que vous avez encore
Les moyens de s'y opposer deviennent de plus en plus compliqués, effectivement. Après, vous ne me ferez jamais dire que c'est une bonne réforme. Voilà, je resterai ferme sur le fait que c'est absolument pas une bonne idée, que c'est une réforme injuste qui touche d'abord les femmes, qui sont principalement touchées par ce report de l'âge, et que c'est pas parce qu'elle entre en vigueur qu'elle devient juste. Au contraire. On en a la concrétisation aujourd'hui.
Est-ce que cette bataille, le sentiment, Laurent Berger l'a beaucoup exprimé, de ne pas avoir été écouté, de ne pas avoir été associé à la réflexion, alors que la CFDT, au départ, a toujours, et vous continuez à le clamer, été un syndicat réformiste, est-ce que ça a abîmé durablement la relation avec l'exécutif, avec le pouvoir?
Je pense que c'est un marqueur, effectivement. C'est pour ça qu'on a rencontré la Première ministre au mois de mai, en bilatéral, où elle a voulu voir les modalités pour notamment quels étaient les sujets pour la suite. Et pour la CFDT, la question n'est pas tellement des sujets, c'est la méthode. C'est-à-dire qu'on a fait des propositions dans le cadre de la réforme des retraites, on peut douter qu'elles aient même été regardées, examinées, on n'a pas eu de réponse. Si demain le gouvernement, comme il le prétend, veut continuer de discuter, de dialoguer, de concerter, pour la CFDT, ça sera certainement pas selon les mêmes conditions que
ça n'aurait été s'il n'y avait pas eu cette bataille, ce bras de fer de la réforme des retraites.
Oui, et puis
vous êtes échaudé quoi.
Il y a de quoi, non? Je pense que ça fait partie des les sujets sont majeurs devant nous, les enjeux de travail, de usure professionnelle, de pénibilité, l'enjeu de l'emploi des seniors, il y a plein de sujets devant nous. La question aujourd'hui, c'est est-ce que le président et son gouvernement veulent continuer de faire tout seul ou pas?
Il attend
la réponse.
Il vous a appelé depuis
pas
que vous avez
été... Pas d'image.
Rien.
Zéro contact.
Vous n'avez pas, depuis que vous avez pris la tête de la CFDT, vous avez eu, il ne vous a pas appelé, il n'y a pas eu un mot, il n'y a pas eu un contact, il n'y a pas eu une demande de rendez-vous, rien?
Non, pas de contact pour le moment.
Donc, il n'y a aucune relation?
Pas de relation pour le moment. Je pense que ça va se faire. Mais
vous auriez
pour le moment.
Je parle pas de l'honneur, pas de l'orgueil.
Pour la CFDT, on est une organisation collective. Moi, ce qui m'importe,
c'est que... Vous ne demandez pas si ça vous aurait flatté. C'est ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas du tout être mal comprise là-dessus. Ce que je veux dire simplement, c'est que vous le dites, il y a quand même beaucoup de sujets sur la table. Est-ce que vous estimez qu'il aurait été sain et peut-être même utile qu'il y ait une forme de contact qui soit prise?
Je pense que le contact va arriver. Il n'y a pas de raison pour laquelle le président de la République, surtout si aujourd'hui il nous dit qu'il est ouvert à la concertation, qu'il ne parte pas avec la secrétaire générale de la première organisation française. Vous savez, j'ai eu beaucoup de messages d'abord de militants et de militantes qui sont extrêmement heureux que je prenne cette responsabilité. Et pour moi, ça, c'est l'essentiel.
Elisabeth Borne non plus?
Elisabeth Borne, j'ai eu un message.
D'accord.
Oui, elle m'a envoyé un message.
Donc vous vous rencontrerez.
Donc on fera on se verra comme c'est d'usage aussi entre une première ministre et une secrétaire générale.
C'est qui Marie-Lise Léon?
Je sais pas. C'est pas à moi qu'il faut demander. Qu'est-ce que vous voulez savoir?
C'est quoi votre cœur de, c'est-à-dire c'est quoi votre priorité si on doit définir en un votre combat, ce qui vraiment vous anime?
Moi, ce qui m'a animé, ce qui m'anime toujours et ce qui m'a toujours fait en sorte que je m'investisse dans le syndicalisme, c'est la question du respect au travail, respect, dignité, reconnaissance du travail accompli. Je me suis engagée syndicalement parce que j'ai toujours trouvé insupportable que on parle des travailleurs invisibles, que des personnes au travail puissent être considérées comme des numéros et qu'ils puissent être interchangeables. Ça m'insupporte au plus haut point et c'est pour ça que je me suis engagée. Et puis la deuxième motivation, c'est les enjeux de conditions de travail, puisque je travaillais dans des sites à très haut risque.
Vous travaillez sur les risques et travaillez sur
les risques industriels. Et quand le travail, comme on le défend nous, CFDT, peut être une source d'épanouissement, mais que dans certaines situations, ça peut amener à des situations dramatiques, d'accidents, voire de décès, je l'ai aussi vu au travail et ça me conforte dans l'idée que c'est grâce aux travailleurs que on peut avoir un travail émancipateur et que c'est véritablement une richesse pour l'entreprise.
Et d'ailleurs, je le précise, vous aviez travaillé au moment de l'accident d'AZF précisément sur ces questions de la responsabilité, de la sécurité au sein du travail. Merci Marie-Lyne Léon.
Merci beaucoup
d'être venue répondre à mes questions, vous dévoiler un peu davantage puisque vous êtes la nouvelle secrétaire générale de la CFDT.
Merci.
Il est 8h53 sur RMC BFM TV.